comment comprendre ce que dit le Concile, la parole de Dieu et l'âme de la théologie. J'y reviendrai, parce qu'on va... J'aime mieux revenir à ce moment-là, quand on essaiera de voir parole de Dieu, les dogmes, dans la tradition, vous voyez. Mais vous pouvez tout de suite comprendre que la parole de Dieu est l'âme, parce que ça ne veut pas dire que la théologie est le corps. On est l'âme du corps. C'est comme qu'on dit que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Alors on comprend que l'Église est le corps mystique, mais la théologie n'est pas le corps mystique. Mais on comprend par rapport au principe et à la conclusion. Les principes sont l'âme de la conclusion, son source. C'est l'analogie des sources, c'est l'âme et source de vie. Et c'est la parole de Dieu qui est source de toutes les conclusions théologiques. C'est pour ça que je vous dis, jeune, ne prenez jamais une conclusion théologique pour prêcher. Prenez la parole de Dieu. C'est une conclusion. Une conclusion demande d'être remontée à la source. C'est l'âme. Dans le cadre de ce que vous nous avez dit hier, mardi, que la base du travail de théologie était le donner de la foi, le dogme, que penser de l'affirmation d'un théologien connu, le révérend Père de Mans, terminant ainsi son cours sur le traité de la grâce au saint Thomas. Ah, c'est Père Trévus qui dit ça. Oh, alors. Je me demandais où il avait eu le cours. Terminant ainsi son cours sur le traité de saint Thomas. Depuis saint Thomas, le Concile de Trente a apporté certaines précisions. Vous irez voir. Sur la grâce. Oui, c'est la fameuse chose, ça. C'était le dada du Père de Mans. Le Père de Mans avait comme ça des dadas, vous savez bien. La seule fois que j'ai fait une vénia à la fin d'un cours, c'est au Père de Mans. Parce que je ne dis pas que j'ai chahuté. Mais il disait certaines choses. Quand il voyait les dons du Saint-Esprit, ça n'allait pas du tout. Et il traitait de la grâce, du reste. Alors, c'est des choses méchantes, on va le faire. Je vais apporter Jean de Saint-Thomas. Puis j'ouvrais Jean de Saint-Thomas. Tout en suivant le cours, j'avais un œil sur ce cours. Puis je voyais la différence. Alors, si je peux vous rapporter un petit détail, ça fait partie des... Ce que le Père Trévus est là. Le Père Chenu savait très bien que le Père de Mans était toujours en opposition vis-à-vis de certaines réactions que je pouvais avoir au cours. Et le Père Chenu, on s'entendait très bien. On était très amis. Même quand j'étais pas d'accord sur certaines choses, on était très amis. Il y avait une très grande amitié, profonde. Il s'appelait Marie-Dominique, je m'appelais Marie-Dominique, alors ça faisait des liens comme ça. Alors un beau jour, c'était la fin de l'année. Alors chacun disait les notes des étudiants, puis on faisait le total, puis on faisait la moyenne. Alors le Père de Mans, qui d'habitude ne me mettait pas une note très chaleureuse, passable, mais pas chaleureuse. Tout d'un coup, il m'a mis une très bonne note. Alors, paraît-il, c'est le Père Chenu qui m'a dit ça. Une indiscrétion du Père Chenu. Il m'a mis une très bonne note. Alors, tout le monde a dit, oh, Père de Mans, qu'est-ce qu'il y a? Tous ont dit surprend très bien. Alors le père de Moire, il m'a dit, oui, il m'a forcé la main. C'était tout à fait super devant. Alors je savais, père, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme examen? J'ai dit, c'était sur le péché originel. Quand il m'a posé la question, j'ai hésité. Ou répéter son cours. Ou dire ce que saint Thomas disait. Puis j'ai dit, tant pis. Disons ce que saint Thomas dit. C'était pas son cours. Et puis s'il expliquait vraiment comment on passe un examen. Et puis il m'a mis une très bonne note. La note maximale. Alors père, je lui ai été très pâté. Alors vous voyez, toujours la même chose, les étudiants et les professeurs, mais c'est très amusant de voir la vieille parole du père de Mans qui reste, du père Mandonné, qui est tellement juste, ce que je vous ai dit plus d'une fois, père Mandonné faisait la goutte de lait au tout jeune, comme je l'ai fait à Saint-Jean-d'Arc. Mes petits étudiants, on voyait la méthodologie de l'histoire que le père Mandonné avait fait. Donc, vous voyez ça, on a vu 4 lignes pendant toute l'année. 4 lignes. Parce que, au bout de 2 minutes, il déposait son livre et puis racontait des histoires. C'était très intéressant. Alors, un beau jour, il a dit, mes chers petits étudiants, mes chers petits frères, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous intelligents. Mais ça se retient toute la vie. Vous êtes tous intelligents. Mais vous allez avoir des professeurs qui seront très différents. Alors, si vous avez la même forme d'intelligence que le professeur dira, j'ai un génie dans ma classe. Si vous avez une autre forme d'intelligence tout à fait différente, et avec le père de Mans, j'avais justement une forme d'intelligence très différente. Parce qu'il était très moraliste. Et il y avait toujours la querelle des dogmaticiens et des moralistes. Le père Héris, je m'entendais parfaitement. Père Héris, le père Chenu, le père de Mans, c'était une théologie morale et très moralisant. C'était plus de la philosophie morale que de la théologie. Alors il y avait toujours des heures, constamment. Et alors, c'est là où il y a eu. Vous savez bien, je vous ai raconté cette histoire entre le père de Mans et le père Héris. Le premier qui partirait au ciel viendrait avertir l'autre pour savoir si ce qu'il dit à son cours est vrai. Le père de Mans est parti le premier. Alors on demandait toujours au père Héris. Alors, il est venu pour tenir son pari. Un beau jour, le père Héris a dit oui. Oui, il est venu. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Père Héris, pour le dogme, c'est à peu près comme ça. Mais pour la morale, c'est pas ça du tout. C'était la grande victoire du Père Héris. Parce que le Père Héris, quand je vais raconter certaines choses du cours de morale, il n'a pas le sens métaphysique. C'était toujours ce que disait le père Héris. Il n'a pas le sens métaphysique. Alors, vous voyez, c'était la grâce suffisante et la grâce efficace. C'était ça. C'est les conclusions. Alors évidemment, c'est le concile. Ce que dit saint Thomas reste très juste. Alors le concile, en face de certaines objections, a pris cette distinction de grâce efficace et grâce suffisante, que le père de Mans n'acceptait pas. Il n'acceptait pas. C'est pour ça qu'il disait. On doit l'accepter, puisque le concile le dit. Et on doit essayer de comprendre comment la théologie de saint Thomas n'a pas besoin de le dire. Et que le concile le dit en face de certaines objections. Mais c'est là où l'aspect historique d'enseignement d'église. C'est pour tout le monde. Il y a une finesse en Saint-Thomas que n'a pas le Concile de Trente. Si tu restes comme ça pour les encycliques, il ne faut pas demander aux encycliques d'être de la théologie. Le pape, quand il parle, il enseigne le peuple de Dieu. Et si, ça, si le pape prenait saint Thomas pour enseigner le peuple de Dieu n'y comprenait rien. C'est déjà assez difficile de comprendre un cycle du pape. Alors qu'est-ce que ce serait? Personne n'y comprendrait rien du tout. Les encycliques appellent l'œuvre du théologien. Et le théologien doit se servir des encycliques pour préciser. Et les conclusions théologiques sont plus précises que les encycliques. On doit être dans le sens de l'Église. Ça reviendra à la place des encycliques. Quelle est la place des encycliques dans un problème théologique? Vous voyez, je prends l'encyclique sur le travail, par exemple. On l'avait vu à Fribourg. Il est évident que le Saint-Père, dans son encyclique, parle directement en vue d'un certain contexte. Le capitalisme et le marxisme. Et il les renvoie l'un contre l'autre. Pour montrer que l'un et l'autre oublient dans le travail l'homme. Et que le travail est humain. Et que l'on peut regarder uniquement l'efficacité du travail. Bon, c'est tout à fait normal pour une encyclique. On comprend comment cette encyclique est donnée. Mais ce n'est pas la théologie du travail. Mais le Saint-Père donne une leçon aux théologiens. Les théologiens auraient dû, dans leur théologie, faire une théologie du travail. Ils ne l'ont pas faite. Alors le pape est obligé de parler. Et l'encyclique du pape, Mysterium Fidei, sur l'Eucharistie, n'est pas un traité de théologie sur l'Eucharistie. Mais c'est en fonction de telle ou telle difficulté, qui étaient les difficultés qui étaient au Concile, que le pape a compris qu'il était urgent de faire une encyclique Mysterium Fidei. C'est ça qu'il faut comprendre, que la théologie, du moins, je prends ici la théologie dans sa fine pointe, en essayant de voir toutes les parties de la théologie. Parce que c'est important. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Mais je prends la théologie de saint Thomas, puisque c'est celle-là constamment auquel on se réfère. Mais c'est une théologie qui est au-delà du temps. Et les lettres encycliques du pape, ou les conclusions du Concile de Trente, apportent des précisions en fonction de telle difficulté. Alors, je n'ai pas le droit de dire le Concile, non. Le théologien doit essayer, en voyant le traité de théologie de saint Thomas sur la grâce, situer ce que veut dire le Concile. Grâce suffisante, grâce efficace, parce que le Père de Mort venait tout le temps. Toute grâce est efficace, puisqu'elle vient de Dieu. C'est vrai que toute grâce est efficace, elle vient de Dieu. Donc il ne peut pas y avoir une grâce suffisante. Et le Concile parle d'une grâce suffisante. Il ne faut pas mettre saint Thomas contre le Concile. Saint Thomas serait lui-même furieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit que quand il était au ciel, la théologie morale, c'était pas tout à fait ça. Il s'est fait taper sur les doigts. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Saint Thomas est un théologien. Le Concile, c'est l'enseignement de l'Église. Que le théologien doit considérer comme un enseignement révélé. Pour nous. Tandis que la conclusion du théologien n'est pas révélée. C'est une conclusion de théologien. Je ne prêche pas les conclusions de saint Thomas. Jamais. Dans une conférence, je peux faire une conférence sur saint Thomas. Mais alors, ou un cours sur saint Thomas. On fait un cours. C'est pas la même chose la prédication. La prédication revient toujours à l'âme de la théologie. La parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu. De temps en temps, on pourra mener une précision. Ça peut se faire. Mais c'est une précision pour mieux comprendre la parole de Dieu. Exactement comme l'exégète. Qui ne fera pas un sermon exégétique. Mais qui prêchera la parole de Dieu et se servira de toute son étude exégétique pour mieux préciser. Voyez, là, c'est la grâce suffisante. Je rappelle de vieilles discussions. Bon, je crois que le Père, vous avez préciser la question que vous m'aviez posée hier pour y revenir.
Oui, c'était exactement situer le.
C'était sur la vérité. J'aimerais bien, parce que je crois qu'ils ont repris un peu ce que disait le père de la poterie sur la vérité. Parce que c'est intéressant, vous l'avez entendu. C'est un petit exercice pratique.
Là, j'ai regardé un peu dans son bouquin quelques citations pour vraiment que ce soit de lui.
Oui.
Ce que j'avais retenu du cours, c'est que vérité pour lui, c'est la vérité sur Saint Jean, ça voulait dire que le Christ est le type et le symbole de lui-même.
Le symbole de lui-même.
Le type et symbole de lui-même, vous nous avez dit. Et il se servait notamment de l'aspect d'Heidegger pour qu'il la vérité révélation.
Ah, voilà, allez, je vous l'avais dit. Qu'il y avait cette philosophie sous-jacente.
Alors, quelques citations qui donnent. Au fond, son gros problème, c'est est-ce qu'il y a une vérité proprement chrétienne ? Il dit, pour l'instant, la plupart des théologiens hésitent. Ils ne paraissent pas s'être demandé s'il existe une notion proprement chrétienne de la vérité. Évidemment, on se récriera en invoquant la doctrine chrétienne, le dogme chrétien. Mais peut-on identifier sans plus le dogme et la vérité ? Quand on consulte la littérature théologique de notre temps, on reste perplexe, car on a l'impression que de fait, la question ne s'est presque pas posée. La plupart des théologiens opèrent d'ordinaire avec une conception purement philosophique qui leur vient des Grecs et qu'ils appliquent directement aux données de la foi. Là, c'était ça la question, la vérité, est-ce que l'adéquation, je peux le
faire. Oui, c'est ça, je vois très bien maintenant, je vois très bien l'histoire. C'est toute la position de Heidegger, qui est intéressant du reste. Vous savez ce que dit Heidegger ? Heidegger commente Platon sur le mythe de la fin caverne et dit qu'il y a une position ancienne de la vérité, aletheia, c'est découvrir aletheia. La vérité consiste à manifester. C'est la manifestation. Tandis que dans l'autre partie de la caverne, on trouve alors une théorie de la vérité qui est du côté de l'intelligence. Vous voyez ? La vérité est emprise du côté de l'intelligence. Vous voyez ? Au fond, ceci. C'est intéressant du reste au point de vue philosophique. Heidegger dit toujours des choses qui sont intéressantes, mais qui sont toujours partielles. Et dans l'intelligence, elle est le bien d'intelligence. vrai ontologique est le fondement de la vérité. Donc, c'est pas vrai de dire que la seule notion de la vérité, c'est l'adéquation intellectus ad rem. Toujours saint Thomas donne les deux, puisque saint Thomas dit que le vrai est convertible avec l'être. Dans le De Veritate, saint Thomas parle de la ratio veri. Et quand saint Thomas parle de la ratio veri, il dit que la ratio veri est convertible avec la ratio intis. Si la ratio veri est convertible avec la ratio intis, c'est dans la réalité. Donc, dire que saint Thomas ne donne comme notion de vérité que ça, c'est faux. C'est pas juste du tout. Pour saint Thomas, il y a une vérité au plan métaphysique, il y a une vérité au plan du de anima, de l'opération. Dans l'intelligence, dans le jugement n'est parfait que quand il est vrai. Mais pourquoi est-il vrai? Parce qu'il est adéquat à la réalité qui est fondement de la vérité. La ratio veri est convertible avec l'être et elle est dans la réalité. Donc on a maintenu, contrairement à ce que dit Heidegger, saint Thomas maintient la ratio veri comme fondement de la vérité. Et la raison, et la vérité formelle, et le bien d'intelligence. Donc, tout de suite, il y a une notion analogique de la vérité. C'est ce que je crois que Heidegger n'a pas compris. Oui. Alors là, c'est le cas typique. Hein. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est le cas typique de voir qu'on se sert d'une philosophie. Et on ne dit pas qu'on s'en sert. Ou bien on le dit, mais on le voile. Et on regarde saint Jean avec un regard d'une philosophie heideggerienne. Vous voyez? Et alors je crois, vous disiez tout à l'heure, que quand l'affirmation, quand il y a dans saint Jean, Jésus qui dit « Je suis la vérité ». Comment interprète-t-il ça? Quoi? Je suis la vérité.
La vérité pour saint Jean est une réalité historique, la révélation définitive apportée par Jésus-Christ qui est présente en lui.
En fait,
la vérité de saint Jean s'identifie formellement à Jésus historique.
Alors là, écoutez, ma foi sur Jésus porte sur quoi? Le Verbe devenu chair. Bon, c'est vrai que c'est une vérité historique. L'histoire n'est pas adéquate à Dieu. Vous voyez la philosophie hegelienne? Pour Hegel, l'histoire est adéquate à Dieu. Donc quand je dis vérité historique, je veux dire vérité éternelle. Là, il faut quand même un peu préciser. C'est par l'humanité sainte, assumée par le Verbe, que Jésus s'est introduit dans notre temps. Et c'est vrai, il est une vérité historique, je suis tout à fait d'accord. Jésus est une vérité historique. Mais Jésus n'est pas qu'une vérité historique. Il est la vérité éternelle venue dans notre temps. Et quand Jésus dit « Je suis la vérité », je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est adéquat à la vérité historique. Parce qu'il dit « Je suis ». Le « Je suis » regarde la personne. Donc regarde le Verbe. Alors vous diriez autrement que le Verbe est une vérité historique. Le Verbe n'est pas une vérité historique. Elle assume le point de vue historique. Vous voyez, alors il y a un petit mélange d'une philosophie heideggerienne et hegelienne.
Il y a aussi, au fond, j'ai l'impression qu'en tant qu'exégète, il regarde uniquement ce qui est dit. Par exemple, là, il dit, Jean n'y dit pas, comme on le prétend parfois, que Jésus est la vérité préexistante qui s'incarne. La vérité serait alors comme chez
les... Jean n'a jamais dit ça. Il a dit « Je suis la vérité ». C'est beaucoup plus fort. Le Verbe est devenu chair. Alors après, continuez.
La vérité serait alors, comme chez les Grecs, une substance divine. Elle serait un être céleste descendu parmi nous. Mais la vérité dans saint Jean a connu un réel devenir historique, egeneto. Elle n'existe qu'ici-bas à partir de l'incarnation, puisqu'elle est la révélation eschatologique qui commence à ce moment.
Tout ça est vrai, mais ce n'est que partiellement vrai. Par rapport à la vérité, c'est très bon. Ce n'est que partiellement vrai. Oui, au fond, il refuse qu'on affirme que Dieu est la vérité.
Oui, il a dit clairement. Parce que pour lui, c'est la vérité uniquement platonicienne.
De dire que Dieu est vrai, la vérité.
Oui, pour lui, c'est uniquement platonicien de dire des choses comme ça.
Mais toute la tradition l'a dit. Toute la tradition l'a dit. Vous êtes bien d'accord, Père de Fuge?
Oui, d'accord avec vous, pas avec lui.
Ah oui. c'est net. Oui, c'est, vous voyez, c'est faux de dire ça. Dieu est la vérité. Donc il refuse. Dans le Tédéono, tout ce que dit saint Thomas, c'est du... Ça ne signifie rien. Alors que saint Thomas résume là toute la tradition des pères. C'est pas parce que, de fait, les Grecs ont dit ça, que ça reste grec. Quand les Grecs ont dit que Dieu était la vérité, et c'est au-dessus des Grecs, puisqu'ils atteignent Dieu. Ce que je disais hier, quand un génie, au point de vue philosophique, atteint une vérité éternelle, mais elle n'est plus grecque. Elle est pour tous les hommes. Ce qu'on appelle l'art classique. C'est pour tous les hommes. On atteint quelque chose qui dépasse le point de vue proprement grec. Platon est dépassé par sa philosophie. Vous voyez ça? Un Malraux est plus intelligent. Quand il dit que l'art est anti-destin. Parce qu'il dépasse le destin. Petite fille de Dieu. Et le métaphysicien est anti-destin sur ce point de vue-là. Il dépasse sa moira. Il dépasse le destin. Il atteint quelque chose qui est au-dessus de la culture grecque. Et ils le veulent. Enfin, c'est leur intention. Mais c'est là où on est. Et vous voyez, il disait aussi que, quand il dit que Jésus fait la vérité, vous disiez.
Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Mais d'abord, quand il disait qu'il faisait la vérité.
C'est pas dans le livre.
Si, j'ai pas trouvé.
Ah, vous l'avez pas trouvé. Je sais pas ce qu'il a dit, ça.
Donc, au niveau de la révélation, en tant qu'il se révélait, il faisait la vérité. Je me demande si pour lui, la vérité, c'est pas justement la vérité, mais en tant qu'elle est connue, en tant qu'elle est révélée. Donc, elle est...
Oui, en tant qu'elle est manifestée. Manifesté par l'intelligence. Parce que ce serait intéressant ça aussi, vous voyez, parce que chez Blondel, l'être, c'est la pensée. L'être, c'est l'action. Donc l'être, c'est faire. Et alors, la dernière phrase que vous disiez, parce que c'est intéressant, bien précisé, à propos de la vérité, Jésus apporte une vérité eschatologique, vous disiez là.
La vérité dans saint Jean a connu un réel devenir historique. Elle n'existe qu'ici-bas à partir de l'incarnation, puisqu'elle est la révélation eschatologique qui commence à ce moment-là.
Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit, reprenez la phrase, parce que c'est ça quoi. La vérité dans saint Jean connaît...
A connu un réel devenir historique.
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. La vérité. Comme si...
La révélation.
Quoi?
Il identifie la révélation qui est de plus en plus en
fait. Il identifie Dieu. Non, mais ce que je dis, la vérité a connu un véritable devenir à cause du verbe devenu chair. Puisqu'il prend Egeneto.
Il met
Egeneto. Egeneto, c'est dans le prologue. Et il y a que dans le prologue, je crois. Il y a ça. Alors, le verbe est devenu chair. C'est la chair qui fait qu'il y a le devenir. C'est pas Dieu qui est changé. Par l'humanité sainte du Christ, il y bien un devenir, c'est bien évident. Mais alors, est-ce que j'identifie la vérité et l'humanité sainte du Christ? Quand Jésus dit « Je suis la vérité », est-ce que la vérité est identifiée à la nature humaine de Jésus? Pas pour moi, puisqu'il dit « Je suis ». Et alors, vous voyez, c'est là où il dit « On retrouve Blondel ». Parce que quand même, faut le dépister. Parce que pour Blondel, vie et être, c'est la même chose. La distinction de l'être et de la vie n'est pas faite chez Blondel. C'est l'ontologisme. C'est ça qu'il appelle l'ontologisme. Vous voyez? Donc, vie et être sont identifiés. Or, on distingue dans le Christ la vie du Verbe de Dieu, la vie de la nature humaine. Alors qu'il y a un seul être, je suis.
La vérité dans Saint Jean, à la différence de l'aletheia du platonisme, n'est donc pas l'essence divine, l'être transcendant de Dieu, pas davantage le Verbe éternel vivant auprès du Père. Elle a son lieu dans l'homme Jésus, dans cet homme qui s'est fait connaître parmi nous comme fils de Dieu. Cet événement central de l'histoire du salut, ce don de la révélation, c'est la vérité.
C'est vrai, mais c'est partiellement vrai. Je n'ai pas le droit de couper. Vous voyez, la vérité. Si Jésus dit « Je suis la vérité », c'est parce qu'il est le Verbe de Dieu qui a assumé la nature humaine. Et c'est par la nature humaine, en effet, que la vérité s'est manifestée. Mais le Verbe de Dieu s'est manifesté dans la nature humaine. Et c'est le Verbe qui se manifeste. Donc le Verbe est présent dans le « Je suis ». Alors là, vous retrouvez Heidegger, vous voyez. Vous retrouvez Heidegger, puisque pour Heidegger, étant n'est pas être. Donc il y a une coupure entre les deux. L'être est en dehors de l'étant, puisque pour Heidegger, être, c'est penser être. Et lui dit que la vérité est dans un devenir. Donc elle est au niveau de l'étant. Puisque l'étant implique le devenir. Pour Heidegger. La vérité est dans l'étant, et dans un devenir. Elle n'est pas dans l'être. Et la vérité est située uniquement à ce niveau-là, ni au devenir. Pourquoi? Parce qu'il nie la vérité à la manifestation. La vérité est manifestation. Si la vérité est manifestation, alors Dieu se manifeste pleinement dans l'humanité sainte du Christ. Et dans l'humanité sainte du Christ, la manifestation de la vérité implique un devenir. Mais alors, il ajoute que ce devenir va jusqu'à l'eschatologie.
Ça, c'était dans la phrase précédente. Elle n'existe ici-bas à partir de l'incarnation, puisqu'elle est la révélation eschatologique qui commence à ce moment. Il y a cette révélation plénière au ciel, mais elle est commencée dès ici-bas à partir de l'incarnation.
Elle est plénière dans le Christ.
Au point de vue de la révélation, en tout cas, au point de vue de la
manifestation. Elle est plénière dans le Christ. Et elle s'achève dans la gloire. Allez. Donc, vous voyez, identification, alors c'est là où vous pourrez critiquer, identification de vérité et manifestation. Je dis, la vérité n'est pas que la manifestation. C'est la manifestation de ce qui est. Parce que si je ramène vérité à manifestation, vous voyez, c'est pas ça. C'est le danger de Heidegger. Alors c'est les apparences, c'est la manifestation. Mais c'est contraire à Heidegger. Parce que pour Heidegger, la vérité, c'est l'être.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que si une exégèse prétend être théologie, elle est forcée d'arriver à ça, de même que...
Non, si l'exégèse fait partie de la théologie.
Non, mais si elle prétendait... Oui. Si elle prétendait
remplacer la théologie. Oui.
Est-ce que ça ne serait pas analogue à... Elle serait forcée d'arriver à quelque chose comme ça, de même que si la critique prétend être philosophique, on aboutit à Heidegger.
Tout dépend quelle philosophie elle prend. Alors on vient au point de départ, on disait, est-ce que je peux prendre Heidegger comme pour faire une théologie? Heidegger n'a pas dépassé Hegel. Il n'a pas dépassé. Il a dépassé la phénoménologie. Il a quitté Husserl. Mais avant Husserl, il y a Hegel. Alors il est revenu à Parménide, mais en projetant Heidegger sur Parménide. Il n'a pas lu Parménide pour lui-même. Il l'a lu d'une manière heideggerienne, en en faisant son commentaire. Et alors, je ne peux pas me servir de Heidegger au point de vue proprement théologique. Pourquoi ? Parce que, justement, l'être est relatif à la pensée. Et la pensée n'est pas relative à l'être. Donc, je suis en face encore d'un idéalisme. Continuons. Après ce petit, c'est parce que je voulais que ce soit net par rapport. Et quelquefois, je réagis trop vite. Alors, c'est normal, c'est les racines du théologien. Ne vous inquiétez pas. Il y a l'homme derrière. Bon, alors, nous avons essayé de comprendre. Maintenant, nous allons continuer, mais en précisant d'une façon plus nette les lieux théologiques, les autorités théologiques. Et, parce que hier on a vu révélation, le donné révélé. Le donné révélé, c'est le résultat de la révélation. La révélation, c'est un acte de Dieu qui se sert d'un homme pour nous communiquer la sagesse de Dieu à travers la parole humaine. Le donné révélé, c'est le résultat de la révélation. Alors, on a différents moments de la révélation. La révélation se donne à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu a été reçue par des hommes. Ces hommes l'ont transmise. Ces hommes l'ont écrite. Et quelquefois, ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a révélation qui se transmet à travers la tradition, révélation qui s'écrit. La révélation, c'est précisé avec les dogmes. Parce que l'Église a reçu du Christ, cette autorité à l'égard de la révélation écrite, à l'égard de la tradition, de pouvoir à certains moments préciser face à des hérésies le dogme, certaines vérités qui sont révélées. Donc, c'est la révélation qui continue à travers l'Église. D'une autre manière. Mais les modalités de la révélation. C'est toujours la même révélation. C'est toujours le même Dieu. C'est le Dieu créateur et le Dieu trine. Qui est le même Dieu. Et qui s'est révélé parfaitement avec Jésus. Les débuts de l'Épître aux Hébreux. La révélation a pris sa plénitude dans le Christ. Je suis tout à fait d'accord. La révélation a pris sa plénitude dans le Christ. Et la révélation prenant sa plénitude dans le Christ n'a pas supprimé l'intelligence humaine. Et c'est pas parce qu'il y a révélation qu'il n'y a plus de philosophie. L'Église est contre cette position de dire que la révélation supprime l'intelligence humaine. C'est ce qu'on appelle le fidéisme. Et cette position qu'il donne, c'est, au fond, il y a du fidéisme. Si on était méchant, on le passerait au crible, on mettrait. Il y a beaucoup de fidéisme là-dedans. Parce qu'on n'accepte pas que le croyant se serve de la philosophie pour mieux comprendre la parole de Dieu. On met une opposition entre les deux. Une coupure. pas me servir de n'importe quelle philosophie, mais d'une philosophie qui recherche la vérité. Alors si j'identifie la vérité avec la révélation, il n'y a plus de vérité pour le philosophe. Oui, danger. La vérité n'est pas identique à la révélation. La révélation me donne une vérité révélée. Et la vérité révélée n'est pas la vérité tout court. La vérité tout court, c'est Dieu. Et Dieu seul. Et c'est Dieu qui me communique sa vérité par la révélation. Et c'est Dieu qui crée. Et c'est Dieu qui a créé mon intelligence. Pour que mon intelligence cherche la vérité. C'est toujours ce que saint Thomas reprend. C'est le même Dieu qui est créateur. Et qui est celui qui me communique son Fils, et qui est source de la révélation. C'est parce que c'est le même Dieu, il n'y a pas d'opposition. Il peut y avoir des oppositions, mais il n'y a pas nécessairement entre la vérité que je découvre au plan philosophique et la vérité qui m'est donnée dans la révélation. Et l'Église a condamné ceux qui prétendaient que l'intelligence humaine était incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Donc d'atteindre la vérité par elle-même. Elle a condamné le finisme. Alors vous voyez, on va reprendre ça tout à l'heure, parce que je ne veux pas vous piéger. On va reprendre les modalités de la révélation, les modalités de la vérité, les modalités de la révélation. On fait un petit tableau. Et on verra là.